Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La conspiration.
Bonjour, bienvenue à la conspiration des planches, une conspiration très dense aujourd'hui puisqu'on va parcourir un tout nouveau festival, le Des Festivals, avec entre autres Marie-Charlotte Co qui est là aujourd'hui pour nous présenter le festival et une des chorégraphes de ce festival, Frey Verbroek, qui sera là avec nous par téléphone, qui est déjà là d'ailleurs, bonjour.
Bonjour.
Et avec Nico à la technique.
Salut, salut.
Alors, on va peut-être d'abord présenter un petit peu ce nouveau venu sur la scène de danse.
Pas tout à fait, hein.
Ou pas tout à fait. C'est-à-dire, c'est un nouveau nom. C'est un nouveau nom pour un festival qui existait déjà sous le titre Danse Balsam Arnie. Donc, comme son nom l'indique, en collaboration avec la Balsamine. Sauf que cette année, la Balsamine s'est retirée de ce festival et donc il a bien fallu trouver un nouveau nom, un titre très ouvert, donc Des Festivals. On imagine que le Des c'est pour danse, mais c'est peut-être pour dire autre chose aussi, Marie-Charlotte.
Non, c'est bien ça, donc c'est bien un Des comme la danse.
En sachant que c'est un mot qui commence par cette même lettre dans plusieurs langues et qu'on avait vraiment envie d'ouvrir en effet, en restant vraiment dans le noyau, sans s'empêcher d'avoir des collaborations avec des choses peut-être dans d'autres formules artistiques et surtout d'autres lieux, parce que la coproduction c'est une force et que voilà, le fait d'être seul n'est pas notre choix. Et en tout cas, on l'assume tout à fait cette année. On a vraiment envie de redonner un nouvel élan. Et puis D, parce que les noms à rallonge de Danse Balsam Arnie Raffinerie Sangor, ça sonnait quand même pas super. Et puis surtout, ça empêchait le fait de citer de nouveaux partenaires, peut-être flamands, peut-être anglophones, qui sait. Donc voilà, Des comme danse, Des Festivals, ça reste un moment de juin. Et puis pour ceux qui connaissent l'affiche avec ce beau dégradé de ciel, il y a plein de petites molécules qui peuvent aussi changer d'une allée à l'autre en se raccrochant à des lieux, à des artistes, à des formules. Donc voilà, un festival qui prend un nouveau départ, une année pivot, on va dire, cette année.
Et un nom plus sexy, moi, je trouve, en tout cas.
Donc, l'ouverture sur les lieux partenaires, mais l'ouverture aussi sur la scène chorégraphique, puisqu'on rappelle le principe du festival, c'est ouvrir la scène aux jeunes créateurs de chorégraphie à Bruxelles.
Voilà, oui. En sachant que Bruxelles est vraiment une plateforme assez importante, et donc, on parle d'un ancrage bruxellois, mais avec une multitude de nationalités européennes, et même au-delà, on a un Costaricain... On a une Canadienne, donc voilà, Bruxelles, mais multilingue et multiculturelle.
Donc D, ça pourrait être danse aussi. Danse, je veux dire D-E-N-S-E.
Aussi, ouais.
C'est quand même une affiche bien fournie hein, pour un festival qui s'est créé, j'imagine, peut-être un peu dans la précipitation, si la Balsamine s'est retirée à la dernière minute ou pas.
Disons que cette année, les créations étaient déjà planifiées. Donc, comme c'est une année qui se base sur la fidélité, il y avait déjà des liens pris avec les artistes. Donc, on a trois créations qui s'étalent sur trois semaines. À ça, on a rajouté deux performances, deux concerts, pour quand même un aspect convivial. Et aussi, les performances donnent ce côté... aller chercher le public là aussi à temps pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire aussi. Pas seulement dans les codes de théâtre où on est confortablement assis, on vient voir de la danse, ce côté un petit peu élitiste malgré tout. Là, on va avoir une performance dans le bar et une performance dans la rue. Donc là, les danseurs vont vraiment aller à la rencontre des gens. Je rassure déjà les gens qui ne doivent pas participer à la chose. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans, on va dire, le mobilier urbain. Je crois qu'il y avait encore une question que j'ai oubliée.
Non, mais donc cette pièce qui se passera dans la rue,
oui.
C'est la pièce de la compagnie Giulisu, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait, qui fête ses 10 ans l'année prochaine.
Et qui s'appelle?
Cielo in Terra, le ciel sur terre. Désolée pour les italophones qui vont...
Alors, va arriver en fond l'accompagnement sonore de Jolizo. On va peut-être parler justement de cette pièce, Cello in Terra, deux frères sur scène.
Voilà, sur scène, sur le trottoir et sur l'asphalte. Donc, ce sont deux frères qui arrivent dans une ville et qui n'ont rien que des sacs, en fait, deux SDF un petit peu abrutis par la vie, qui ne se connaissent pas. Donc, nous, on sait que ce sont des frères et je pense que vous allez vite le remarquer aussi, mais le public n'est pas censé le remarquer tout de suite. Et puis, ils vont construire un cabanon, ils vont commencer à se rapprocher, il va y avoir des relations qui vont se tisser. Et à la fin, ben, on va voir, ça se voit très fort dans les mouvements qui sont aussi assez synchrones et c'est très joli. Une relation qui se crée, quelque chose qui va exister entre eux parce qu'ils vont partager la dureté de la vie dans la rue, le froid par terre, d'où peut-être aussi un duo de deux hommes, ce qui n'est pas toujours courant dans ce contemporaine. Et deux beaux hommes d'ailleurs.
On sent la création sonore hein, aussi qui est là derrière, puisque on en parlait juste avant, c'est que ces spectacles sont aussi des créations donc chorégraphiques, mais également sonores.
Voilà, donc les trois créations, ce sont vraiment des collaborations avec surtout des musiciens. Mm-hmm. Et donc là, je pense que Frey Werbrook, qui est en ligne, va pouvoir justement parler de ce qu'elle est en train de créer.
Qui nous parle de petites morsures sur le vide. Et c'est l'étape 3. Vous êtes une fidèle du festival, je crois, Frey.
Oui, oui, oui.
Voilà. Alors, parlez-nous un peu de cette troisième étape. Qu'allez-vous évoquer cette fois-ci ?
Mais alors, ce que je voulais d'abord dire par rapport aux étapes, c'est que ce ne sont pas forcément des étapes de work in progress. Mm-hmm. Ce sont plutôt comme les étapes d'un voyage.
Les chapitres, alors.
Voilà. Oui. Et donc j'ai choisi un thème assez vaste, donc je travaille sur l'idée des lieux et comment les lieux viennent se rappeler à nous, les lieux du souvenir, les lieux du rêve, ou les lieux du présent d'ailleurs. Il me semble que dans notre vie, les lieux prennent parfois, à certains moments, une importance comme ça très très pointue. Et donc j'avais envie de travailler là-dessus et ces étapes me permettent de voyager à l'intérieur de ce thème sans être obligée de me cantonner à un spectacle qui se fait en deux mois de création, qui est présenté X nombre de fois. Donc par rapport à mon parcours, ça tombait assez bien de travailler en étapes. Mmh. Et alors pour cette étape-ci, je dirais que c'est probablement quand même la plus construite des trois parce que j'ai eu plus de temps et puis il y a eu un temps de latence un petit peu plus long que pour les autres. Et donc je travaille sur les lieux, sur le lieu du rêve et du fantasme. Mais qui se situe vraiment par rapport à la nature.
Dans un milieu naturel. Hein, puisqu'on...
Voilà, c'est une femme qui est dans son appartement et qui décide un jour de faire le choix d'aller vers son fantasme ou des moments qu'elle aurait rêvé et de plonger là-dedans, de quitter sa réalité quotidienne habituelle et de plonger dans cet univers. Donc il y a pas mal d'éléments végétaux sur scène. Il y a des surprises plus animalières qui apparaissent aussi. Et elle ne sait pas très bien si c'est sa tête qui produit ça ou si c'est la réalité. Donc, il y a quelque chose d'assez onirique dans la pièce.
C'est un solo, donc.
C'est un solo de Sarah Sampelayo qui est magnifique, qui a une puissance sur scène. Et c'est une femme très, très grande. Donc, elle a la force de porter du poids, de porter des... Et donc, je joue à la fois sur la féminité et sur ce côté très, très puissant de cette danseuse. Donc, il y a vraiment un côté assez organique, en fait, dans le travail. Et un univers, je dirais, assez homogène par rapport à, disons, cette forêt qu'on crée, mais d'une manière qui est la nôtre, bien sûr.
Avec tout l'imaginaire qui joue, bien évidemment, sans doute.
Évidemment, évidemment. On demande au public de faire aussi son chemin par rapport à tout ça.
Alors, et avec un titre intrigant et paradoxal, Petite morsure sur le vide.
Mais donc justement, pour moi, ces lieux, c'était une manière de poser son présent dans l'espace vide de notre vie, disons. Son présent ou son passé, et comment les deux se rejoignent. Donc c'était un peu l'idée de... Ouais, d'aller mordre sur le présent d'une manière, c'est pour ça les étapes aussi d'une manière assez ponctuelle et par rapport aux humeurs du moment qu'on a, que j'ai moi et puis toute l'équipe qui travaille avec moi, qui me suit depuis très longtemps, donc il y a une très belle complicité. Et c'était, voilà, l'idée de ne pas s'enfermer, d'avoir cette idée de la page blanche en fait. J'ai commencé par une période de recherche et puis... petit à petit, je me suis dit que j'avais besoin de garder cette page encore blanche un petit temps. Et puis, je dois dire qu'avec cette tessie, la page n'est plus très, très blanche. Mais bon.
Est-ce que ce serait la dernière étape de ces petites morsures ?
Je pense que, en tout cas, oui, je pense que je vais peut-être passer à un autre type de morsure, peut-être moins petite.
En tout cas, on verra ce spectacle-là du 14 au 16 juin, bien évidemment, dans la salle du Théâtre Marny. Ce sera à 21h. Vous êtes une fidèle du festival. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival ?
Alors, je voudrais d'abord dire que je suis très, très contente que le festival se poursuive. Je pense que c'est vraiment un événement capital par rapport à la danse à Bruxelles, dans la mesure où les chorégraphes francophones, mais j'espère que ça va s'ouvrir, mais jusqu'ici c'était plutôt francophone, ou en tout cas soutenu par la communauté française, avait là une plateforme, des possibilités, une reconnaissance, un public, et que c'est pas si facile de s'intégrer dans les productions, dans les productions annuelles de théâtre. Et que donc je pense que la formule de festival est vraiment assez importante et permet à tous ces gens comme moi, comme plein d'autres, de présenter leur travail dans le cadre d'une émulation, d'un festival, de rencontrer d'autres gens, de soutenir ce propos dansant dans le cadre d'un événement qui rassemble plusieurs personnes. Et je trouve ça très important que le Marny continue ça et j'espère que ça va se développer.
Alors, vous êtes un fil rouge dans cette programmation du Marny, mais il y a aussi donc des nouveautés dans cette programmation et notamment un spectacle et un atelier pour les enfants.
Ah oui.
Alors, Marie-Charlotte, ce spectacle, c'est Tête à Tête de Maria Clara Villa-Lobos qui s'adresse à des enfants à partir de 4 ans.
Voilà, à partir de 4 ans, mais c'était assez. Donc, ça a déjà eu lieu. L'idée, c'est que la salle est vraiment réservée 2-3 semaines avant à la création. Donc là, il y a Lise Vachon et Elisabeth Gruet qui construisent réellement la scénographie sur le plateau. Et ce qui nous empêche d'ouvrir la salle à des représentations, ce qui est quand même un endroit assez confortable. Donc les enfants, par contre, on les cajole un petit peu. On n'a pas envie de les asseoir par terre dans la rue. Ce qui explique qu'en amont du festival et pour les années à venir, on espère, pourrait se développer un pan jeune public. Pas seulement les 4 ans, mais en tout cas, peut-être commencer assez tôt. Et parallèlement à ça, il y a des ateliers, des minus, par des personnes qui font ça de manière professionnelle et régulière déjà, la SBL Espaille, qui se dérouleront donc les mercredis du festival. Il y en a 3 pour les 4 à 6 ans, de 2h à 4h, avec des crêpes à l'issue pour les gourmands. Et donc ça, ce sera des arts plastiques et de la danse contemporaine. 1 heure de chaque.
Pour rester dans les spectacles, donc on a parlé de la compagnie Jolly Zoo, de Frewerbrook. Il y aura en ouverture Sliding de Lise Vachon, qui est, je crois, encore en train de se peaufiner.
Oui. Là, même à l'instant même, je crois qu'elle travaille encore. Là.
Alors, mais qui est une danseuse déjà assez connue dans le monde de la danse.
Oui, tout à fait. Donc là, elle a tourné avec Minute Opportune de Michel Noiret. Ils étaient 4. Et alors sa partenaire sur scène, c'est Lisbeth Gruet. En fait, elles se sont connues à Parts. Elles sont sorties en 2000 et puis elles ont vraiment pris des chemins tout à fait différents parce que je pense que ça représente vraiment deux écoles de la danse contemporaine belge. Donc Yann Fabre a travaillé avec Lisbeth ou l'inverse. Et donc elle a interprété un solo qui apparemment ne laisse personne indemne avec de l'huile d'olive. Il lui a vraiment dédié ce solo. L'huile d'olive coule en continu par gouttes sur le plateau. Et donc, c'est vraiment une performance physique très importante. Ici, ce qui était intéressant d'entendre de Lisbeth, c'est qu'elle laisse justement sa féminité ressortir parce qu'elle s'imprègne des peintures d'Edward Hopper avec ses personnages féminins, esselés, mélancoliques. Et donc, elles prennent vraiment des postures. Il y a toute une scénographie qui évoque ce sliding, donc le passage d'une carte postale chorégraphique à une autre.
Donc quelque chose de très atmosphérique, on imagine.
Oui, ouais, tout à fait. Et j'ai vu des petits morceaux, ça, c'est déjà très beau.
Alors, en marge de la danse, il y aura aussi, je vois, 2 concerts et une expo.
Voilà, donc l'expo, elle est là, bien sûr, durant toute la durée du festival. Elle est d'ailleurs déjà sur les murs. C'est un collectif bruxellois qui s'appelle Cyclope. Gardez un œil ouvert, c'est leur leitmotiv. Il y en a 9 et on en a choisi 3 parce qu'on a vraiment craqué sur ces photos et parce qu'on avait l'impression que ça cadrait bien avec l'univers de la danse et puis parce que les trois formaient un bel ensemble aussi.
Avec un thème particulier, un ninja.
Le thème du ninja, voilà. Ils ont mis des petits papiers dans un chapeau et puis ils ont tiré au sort. J'ai vu les autres, c'était pas le pire. Donc voilà, ninja, ça laisse rêveur. Et il y a eu plein d'interprétations très sympas. Mon petit coup de cœur, si je peux, c'est Simon van Steenwinckel qui a fait toute une série de photos où les personnages sont dans une situation tout à fait sans issue et qui croisent simplement les bras sur la poitrine pour pouvoir se sortir de cette situation. Et on peut très bien regarder les photos sans connaître la signification du geste. C'est déjà super intéressant. Et puis quand on la connaît vraiment, il y a une seconde lecture qui est tout à fait chouette. C'est des photos couleurs. Voilà. Et alors les deux concerts, ça c'est pour l'aspect festif et convivial du festival, soirée d'ouverture et de fermeture, donc le mardi 7, la semaine prochaine, et le jeudi 23, donc c'est chaque fois mardi, mercredi, jeudi, les jours de représentation. Là en ouverture, on a le Marni Club, qui est quelque chose qu'on suit au Marni tous les mois, donc un concert dans le bar, ambiance club avec restaurant, etc. Et puis la dernière soirée, c'est la fanfare alimentation générale, où là il y a 13 huluberlus qui débarquent dans le bar et qui vont... eux-mêmes donner un spectacle. C'est vraiment ça, c'est un concert, mais c'est un spectacle mis en scène avec... c'est pas du sketch, mais c'est vraiment quelque chose de super sympa à vivre et à entendre. Donc voilà, une autre forme de danse.
Et on va essayer d'être complet en citant aussi le spectacle Madriguera d'Ivan Fanjo et de Estelle Delcamp qui sera présenté dans le cadre des créations proposées dans ce D-Festival qui aura lieu donc du 7 au 23 juin au Théâtre Marny à la rue de Verny, www.theatremarny.com. Merci Marie-Charlotte.
Merci à vous.
Et merci Fré au bout du fil également.
Merci à vous.
Et bon spectacle en tout cas aussi pour vous, hein, les artistes. Hein, c'est aussi important de prendre du beau temps.
Merci.
On fait une pause musicale et on vient avec les critiques de la semaine juste après ceci.
La conspiration.
Avec Elisabeth au téléphone pour nous parler d'un printemps dans un jardin de fous qui a, je pense, été créé il y a au moins 10 ans et qui nous revient au public cette fois-ci.
Mais oui, le printemps revient tous les ans, hein, donc c'est logique. Alors de quoi s'agit-il ? C'est vrai que quand on voit le titre, on pourrait se dire que printemps dans un jardin de fous, bah, ça pourrait faire un petit peu fuir finalement, hein, parce qu'on se dit « Oula, ça va encore être une histoire de tordu et tout ça ». Et en fait, c'est d'abord un seul en scène, et c'est surtout un seul en scène qui est servi par Alain Éloi, qui est un comédien qu'on connaît bien, et qui est un comédien qui a un punch et une énergie qui mérite le déplacement, en fait, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est là tout le temps, qui nous largue pas en route, on le suit tout le temps. Et ça permet évidemment d'avaler un peu cette pilule de ce texte, qui est en fait un texte d'un Français, Henri-Frédéric Blanc, qui est né en 54, et c'est un Marseillais, mais c'est pas vraiment quelqu'un qui écrit pour Plus belle la ville, les scénarios. C'est quand même une écriture engagée, c'est quelque chose qui va un peu gratter ou ça coince comme ça. On est vraiment dans quelque chose d'un regard sur la société. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce personnage qui est un militaire, mais qui est un peu tiroflant. Enfin, on sent qu'il se révolte un peu contre le système. Et un des intérêts du texte, c'est évidemment que c'est finalement un texte sur l'embrigadement, finalement, quelque part. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu l'impression, on dit, tiens, est-ce qu'on est un peu dans quelque chose qui nous rappelle le Vietnam, comme ça. Mais c'est aussi en filigrane tout cet embrigadement, tout ce lavement de conscience qu'on peut faire. Et c'est présenté vraiment de manière en force aussi, parce que voilà, Éloi y va, c'est un comédien physique aussi, donc il bondit dans cette salle des voûtes du public à droite, à gauche. C'est travaillé en acte, ce qui fait qu'il y a des respirations quand même, et il y a une scénographie qui est un peu étonnante par moments, même si elle ne m'a pas semblé absolument utile tout le temps. Mais donc voilà, c'est finalement...
C'est quoi cette scénographie?
Mais c'est scénographie, c'est des éléments qui sont là, il aime pas la poussière, donc il y a des balais, il y a toute une collection de balais, puis il y a des moments où il y a des petits cochons roses. Enfin bon, moi je l'aurais fait avec un peu plus de sobriété, parce que justement on est tellement tout le temps avec le comédien que voilà, ça me semblait un petit peu gadget, mais enfin bon.
Surtout qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur cet aspect, ce rapport à la guerre, ce rapport à l'armée, qui n'est pas des moins intéressants.
Non, bien sûr, et puis de toute façon, on sent que ça va de plus en plus loin, comme ça, on est un peu dans le Caucase, dans l'insolite, mais tout ça est très présent dans le texte et dans le jeu, donc bon, avoir mis des petits cochons rouges, ben voilà, ok, pourquoi pas, hein, mais j'ai pas ressenti ça comme étant tout à fait...
essentiel.
Tout à fait essentiel, quoi. Mais bon, en même temps, c'est vrai que pour des gens qui aiment vraiment un théâtre de comédiens, qui aiment être la proximité dans ce genre de salle est très importante, c'est évidemment tout à fait chouette, évidemment, d'avoir ce comédien-là en face. Et puis, voilà.
Et après autant d'années d'interprétation de ce texte, est-ce que l'énergie est toujours bien présente?
Ah oui, c'est vraiment ce qui saute aux yeux. C'est d'abord l'énergie, c'est vraiment cette énergie à défendre ce texte, à défendre ce propos qui est un petit peu qui rappe. Hein. C'est un texte qui rappe comme ça, quelque chose. Ça passe pas facilement. Hein. Il y a à la fois cette idée de folie qui arrive aussi. On est quand même confronté aussi à la psychiatrie aussi, donc on passe de l'un à l'autre, tout ça. Mais non, c'est tout à fait crédible. Et voilà, on a l'impression que c'est au moment même. Il y a aussi des apartés vers le public et tout ça. Il n'y a pas du tout une bulle et on n'est pas tellement dans un univers de fou folie qui nous met en dehors. Hein. On est vraiment capté tout le temps, en fait.
Je trouve que le théâtre s'intéresse décidément beaucoup à la folie en ce moment. C'est un thème beaucoup abordé, peut-être parce que c'est le lieu pour défouler cette chose tabou ailleurs.
Oui, c'est vrai qu'il y a une notion de catharsis aussi qui a toujours été présente dans le théâtre.
Et une chute des tabous également aujourd'hui avec la folie, le niveau à la maladie également suite à ça.
Oui, et c'est aussi peut-être tout simplement quelque chose qui est théâtral, qui permet un jeu. Ici, c'est un jeu qui est quand même très extérieur aussi, qui est un petit peu grandiloquent par moment, enfin dans le bon sens du terme. Et ça, la folie le permet tout à fait, évidemment.
Voilà, en tout cas, tu nous as donné envie d'aller découvrir ou redécouvrir peut-être pour certains le Printemps dans un jardin de fous au public.
Oui, alors c'est un texte d'Henri-Frédéric Blanc aussi, et ça se passe jusqu'au 25 juin. Donc on a encore un petit peu le temps.
C'est dans la petite salle.
C'est dans la petite salle, c'est à 20h30, et il y a relâche dimanche et lundi, enfin comme d'hab, quoi.
www.lepublic.be pour tous les renseignements. Merci Elisabeth.
Merci.
Et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
La folie, on y revient encore.
On va pas y échapper non plus avec Agamemnon, dont on avait déjà parlé il y a quelque temps.
En son temps,
à sa création au théâtre de Poche. Et je trouve que c'est une reprise bien méritée, puisque c'est un bon texte, un bon comédien, encore une fois, un seul en scène, Frédéric Jesquière, qui joue ce texte de Rodrigo Garcia, donc dont le sous-titre est
À mon retour du supermarché, voilà. J'ai flanqué une raclée à mon fils.
Voilà.
C'est un peu long. Hein.
Un titre à rallonge, mais qui résume finalement bien surtout le début de ce spectacle d'un père de famille qui excédé d'avoir encore une fois qui s'est laissé aller à une surabondance d'achats au supermarché, une espèce de pulsion incontrôlable comme ça, et excédé par ça, il frappe son fils et ça part de là. Il y a ensuite toute une interrogation sur la société de consommation, sur notre société d'aujourd'hui. Il va partir comme ça dans une épopée, un voyage sur une autoroute où il s'arrêtera notamment dans un KFC pour refaire le monde à coups de pilon de poulet, voilà, sur la table devant le personnel de ce fast-food. Donc c'est très étonnant, c'est plein d'énergie aussi, c'est très fort comme souvent avec Rodrigo Garcia. Je trouve que c'est même un propos qui ne s'essouffle pas avec lui et c'est mis en scène avec sobriété dans la scénographie.
C'est Pietro Varasso qui signe ça.
Qui signe cette mise en scène avec notamment un DJ qui est comme ça en fond de scène et qui va rythmer ce monologue.
Et avec une batterie également. Hein. Je crois que c'était une batterie avec un bon DJ.
Qui pulse comme ça ce seul en scène dont on ne décroche pas une minute. Donc Frédéric Jesquière arrive comme ça en costard cravate et il finira avec sa cravate autour de la tête à la Rambo. Enfin voilà, ça va se déchaîner complètement. Ça dure pas très longtemps, j'imagine une heure si je me souviens bien.
Je me souviens aussi à peu près ces zones-là.
Pour ceux qui veulent découvrir Rodrigo Garcia, c'est un bon texte, c'est fort et c'est au Théâtre de Poche du 7 au 11 juin.
Oui, dernier spectacle ou à peu près de la saison du côté du Poche et les saisons se terminent en effet dans les théâtres. C'est ici qu'on se quitte.
Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine évidemment pour
parcourir la fin de cette saison théâtrale.
Oui, parce qu'il y a encore des choses et l'été s'annonce avec,
oui, avec plein,
plein
de festivals.
Merci Catherine.
Merci Nico.
À bientôt et n'oubliez pas, le podcast de cette émission, c'est sur demandezleprogramme.be ou sur www.radiocampusbruxelles.org. Belle semaine à vous.
Constelación.